Ou à Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Idrissa Seydoudia et Morgane Guériec en votre compagnie. Bonsoir. Tout d'abord, bienvenue à nos auditeurs de Lubumbashi en République démocratique du Congo qui peuvent désormais nous écouter sur 102.8 FM. Donc, ils nous écoutent sur 102.8 FM. Édition du lundi 4 janvier 2016. À la une ce soir.
Violence au Burundi, dans le centre-ville de Bujumbura.
Dans le couvent des sœurs Ben et Mukama, des obus de mortier sont tombés, faisant 3 personnes blessées. Un autre obus de mortier est tombé près des bureaux du maire de la ville, Freddy Mbonima, causant la peur et la panique dans la capitale Bujumbura.
Présidentielle en République centrafricaine, une 20aine de candidats exigent l'arrêt des opérations électorales et dénoncent une mascarade.
Au Gabon, les enseignants du secteur public ont décidé de faire grève ce lundi pour obtenir des primes et une meilleure gestion des ressources humaines.
Vive tension entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, Riyad a rompu ses relations diplomatiques avec Téhéran.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Une nouvelle année qui débute dans la violence au Burundi. 3 obus de mortier sont tombés ce matin dans le centre-ville de Bujumbura, à quelques mètres de la mairie et du bureau spécial de recherche. Bilan, 3 blessés, dont une veuve. Par ailleurs, au moins 3 personnes ont été tuées, dont un jeune musicien au cours du week-end. Leurs corps ont été retrouvés dimanche matin dans le nord et le sud de Bujumbura. Des tirs avaient été entendus dans la nuit de Saint-Sylvestre dans cette en certains quartiers contestataires de Bujumbura, la correspondance de Christophe Kurunziza.
Sur l'avenue du peuple Murundi, dans le couvent des sœurs Ben et Mukama, 2 obus de mortier sont tombés, faisant 3 personnes blessées, dont une veuve grièvement. Un autre obus de mortier est tombé près des bureaux du maire de la ville, Freddy Mbonima, vers 9h GMT, causant la peur et la panique dans la capitale Bujumbura, qui venait de vivre des jours calmes après la nuit cauchemardesque du vendredi 11 décembre 2015. Mais dimanche, avant midi, un jeune de 29 ans, surnommé Lissouba, a été assassiné à la 2e avenue du quartier Moussaga, sur une des artères menant à la grande prison de Mbimba, au sud de la capitale. Les témoignages de la population de la localité sont formels. Trésor Pascal Nshimirimana a été assassiné par un policier, mais le porte-parole de la police indique que ce jeune criminel voulait fuir par mégarde. Une balle l'a tué et des enquêtes ont débuté. 2 autres corps ont été retrouvés dans les quartiers de Kinama et de Mutakura, alors que tous les regards restent braqués sur la date du 6 janvier prochain pour le début des véritables pourparlers entre opposition et gouvernement. À Arusha, en Tanzanie, les Burundais s'interrogent toujours si le gouvernement sera présent après les déclarations des autorités burundaises. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Présidentielle en Centrafrique, une 10aine de candidats à la présidentielle ont exigé l'arrêt des opérations électorales. Au cours d'une conférence de presse aujourd'hui à Bangui, ils dénoncent une mascarade. Les signataires qui font état de nombreuses irrégularités après la publication des premiers résultats partiels du premier tour du 30 décembre. Le texte est signé d'une 20aine de candidats, dont Karim Mekasoua, présenté comme un des poids lourds de l'élection, et Sylvain Patassé, ancien fils, fils d'un ancien président. Sur place, notre correspondant Freeman Sipila.
Au 3e jour de la publication de ces résultats partiels et provisoires, une 10aine de candidats dont les voix n'augurent pas grand succès ont exprimé leur exaspération. Au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi, ils demandent l'arrêt du processus et l'ouverture d'une concertation entre les différentes parties prenantes. Ces candidats estiment que les opérations sont entachées de multiples irrégularités et donc non crédibles. Première réaction, celle de la coordination des anti-Balaka appelant les contestataires au respect des voix des urnes pour sauvegarder la paix dans le pays. De son côté, l'autorité nationale des élections poursuit la publication des résultats partiels et provisoires. Les résultats de ce soir, estimés à 37% des données traitées, placent toujours en tête Faustin Archange Touadéra avec 146 775 voix, suivi du candidat de l'URCA, Anissé Georges Doléguélé, qui a récolté 109 519 voix. Surprise de la journée, Jean-Serge Bokassa grimpe à la 3e position avec 68 815 voix. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
présidentielle au Bénin, Sébastien Adjavon a officialisé sa candidature à l'élection du mois prochain. Âgé de 50 ans, le président du patronat béninois est notamment à la tête d'une chaîne de télévision et d'une station de radio. Il souhaite être le président de tous les Béninois, sans distinction de sexe, de religion, d'appartenance politique et de région.
La police en Ouganda enquête sur l'apparente disparition d'environ 80 kilos de cocaïne entreposés dans ses hangars, représentant une valeur de près de 4 millions de dollars. La drogue avait été saisie au cours des dernières années, selon les autorités.
Assaut du groupe État islamique en Libye. Les djihadistes ont mené deux attaques ce lundi à proximité d'importantes installations pétrolières dans les villes d'Al-Sidra et Ras Lanouf dans le nord du pays. Les membres de Daesh sont arrivés à bord d'un convoi d'une dizaine de véhicules armés d'après les forces libyennes. Les assaillants auraient été repoussés mais deux soldats auraient été tués.
Et toujours au sujet du groupe État islamique en Tunisie cette fois-ci, des villageois du nord-ouest de la Tunisie ont brièvement bloqué une route aujourd'hui pour réclamer davantage de protection face aux djihadistes retranchés dans des montagnes voisines. La nuit, ils frappent aux portes, demandent de la nourriture et menacent de nous égorger si on prévient les autorités, a expliqué à l'AFP l'un des villageois.
Dimanche soir, le ministère de l'Intérieur a annoncé qu'un djihadiste, probablement étranger, avait été abattu par les forces tunisiennes de l'ordre dans cette même région.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les vives tensions entre l'Iran chiite et ses voisins arabes sunnites ont franchi un nouveau seuil aujourd'hui. L'Arabie saoudite et ses alliés ont rompu ou réduit leurs relations diplomatiques avec Téhéran suite à l'exécution par Riyad d'un dignitaire chiite. Salwa Javari nous en dit plus.
Les attaques contre les représentations saoudiennes constituent une violation flagrante des conventions internationales.
Le torchon brûle entre Riyad et Téhéran. L'Arabie saoudite a annoncé hier la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Iran. Ses diplomates ont 48 heures pour quitter le pays. Et pour cause, l'ambassade saoudienne en Iran a été incendiée dans la nuit de samedi à dimanche après l'exécution par Riyad du dignitaire chiite Nimr Bakir Nimr. Une mise à mort qui continue de susciter la colère de la communauté chiite dans le monde arabe et musulman, notamment en Irak, au Yémen, au Liban et en Iran, où plus d'un millier de personnes sont descendues dans les rues. En revanche, plusieurs pays arabes, le Bahreïn, le Soudan, le Qatar et les Émirats, ont condamné ce qu'ils appellent l'agression iranienne, tout comme l'Égypte et la Mauritanie. Avant l'annonce saoudienne de la rupture des relations avec Téhéran, les États-Unis, l'ONU, l'Union européenne, la France et l'Allemagne avaient prédit que cette exécution allait mener à une aggravation des tensions sectaires dans plusieurs pays de la région.
À noter aussi que la Mauritanie a également dénoncé les actes de vandalisme contre des représentations diplomatiques saoudiennes en Iran. Nouakchott rappelle que le respect de la souveraineté nationale et la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays demeurent des principes essentiels dans le droit international et dans les traditions diplomatiques établies. La Mauritanie s'apprête à signer, soulignons-le, dans les prochains jours, un important accord de coopération militaire avec l'Arabie saoudite, selon une source diplomatique mauritanienne citée par l'AFP.
Le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, l'Indonésien Makarim Wibisono, a présenté lundi sa démission car Israël ne l'a jamais autorisé à pénétrer dans ces territoires, a annoncé l'ONU. Les détails avec Tatiana Mosso.
Il quittera ses fonctions le 31 mars à la fin de la prochaine session du Conseil des droits de l'homme devant lequel l'expert présentera son dernier rapport. Makarim Wibisono avait pris ses fonctions en juin 2014, succédant à l'Américain Richard Falk, qui n'avait pas non plus été autorisé par Israël à se rendre dans les territoires palestiniens. En 2014, Israël avait déjà empêché Makarim Wibisono d'enquêter en Israël et dans les territoires. Le rapporteur spécial avait fait une nouvelle demande en octobre dernier, sans jamais recevoir de réponse des autorités israéliennes, a précisé le Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Le rapporteur spécial est considéré comme l'expert de l'ONU le plus haut placé sur la question des droits de l'homme dans les territoires palestiniens. Il est nommé par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, une institution avec laquelle Israël a des relations conflictuelles. Israël a boycotté à plusieurs reprises des sessions de ce conseil qu'elle considère comme un organe entièrement politisé.
Reporters sans frontières estime qu'un an après l'attaque sanglante contre Charlie Hebdo à Paris, que le djihadisme est devenu l'un des pires prédateurs de la liberté de la presse dans le monde. Dans un rapport intitulé « Le djihad contre les journalistes », l'ONG résume les efforts faits par des groupes armés comme l'État islamique, Al-Qaïda, Boko Haram et Al-Shabaab pour intimider et réduire au silence les journalistes. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Anastasie Tudiech.
Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, entame ce lundi une tournée de 6 jours en Afrique. Son agenda comprend des rencontres avec des chefs d'État, Muhammadu Buhari du Nigeria, ainsi que Paul Biya du Cameroun. Madame Lagarde rencontrera également les ministres des Finances des 6 pays de la zone CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Mi-décembre dernier, la Banque des États de l'Afrique centrale a indiqué que la croissance de la zone CEMAC a décroché de 2,5 points, passant de 4,9% en 2014 à 2,4% en 2015. En Somalie, un lotissement dynamisé par la diaspora annonce le renouveau. Daru Salam, à 7 km de Mogadiscio, la capitale, située dans une zone rurale, est en train de devenir un quartier résidentiel grâce à la diaspora qui revient au pays et achète frénétiquement. 500 maisons devraient être construites qui devraient abriter 500 familles. Pour le moment, 50 habitations sont déjà achevées selon l'entreprise de construction. Le projet, lancé début 2015, a été estimé à 20 millions de dollars et a été financé par la Salam Somali Bank. La société sénégalaise Patisen, spécialiste des pâtes à tartiner, chocolat et margarine, ainsi que de produits culinaires comme les bouillons ou le vinaigre, veut compléter ses gammes de produits en se lançant à la fin du second trimestre 2016 dans la production de mayonnaise. Les investissements ont été financés en partie sur les fonds propres de Patisen pour un coût global de 15 milliards de francs CFA. La nouvelle usine embauchera environ 300 employés.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Anastasie.
Les sports à présent avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Idrissa.
On commence avec le football. La CAF lève l'interdiction des rencontres continentales en Guinée.
Oui, la nouvelle est tombée aujourd'hui lundi et met fin à cette interdiction qui était en vigueur depuis août 2014. Elle est consécutive à l'annonce de l'OMS le 29 décembre dernier, déclarant la fin de la transmission d'Ebola en Guinée, Idrissa.
Eh bien, en Espagne, Valence accroche le Real qui a raté le coche.
Oui, on jouait la 18e journée malgré un jeu en progrès de buts splendide de Karim Benzema et Gareth Bale. Le Real a été réduit à 10 avec l'exclusion de Mateo Kovacic et a concédé 2 fois l'égalisation par Dani Parejo puis Paco Alcacer. Conséquence, le Real lui a raté l'opportunité de revenir à hauteur de son grand rival barcelonais et stagne à la 3e place et du coup les choses ne s'arrangent pas. Pour l'entraîneur Rafael Benitez, la presse espagnole Idrissa spécule déjà sur son éventuel remplacement par le français Zinedine Zidane, l'entraîneur de la réserve.
Le transfert le plus cher de l'histoire pour un joueur allemand d'origine sénégalaise.
Oui, c'est votre compatriote Idrissa et c'est une offre record de Manchester City pour le roi Sané. L'attaquant international de Schalke 04, le club anglais, est sur le point de libérer 55 millions d'euros pour le jeune talent de 19 ans, le roi Sané, le fils de l'ancien international sénégalais Souleymane Sané, qui a fait sa carrière en Bundesliga. Vous le savez, Idrissa et Alvarez s'est rejoint la Sampdoria pour 6 mois et enfin Barcelone peut encore recruter. La FIFA a levé la sanction d'interdiction de recrutement pendant 2 mercatos successifs contre le club catalan pour des infractions dans les transferts de mineurs.
Merci Eric.
Merci à Lubumbashi, nous suivent depuis aujourd'hui.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Idrissa Sédoudia et Morgane Guiriec en votre compagnie. Place au dossier du jour, première escale, le Gabon.
Les enseignants du secteur public ont décidé de faire grève ce lundi pour obtenir des primes et une meilleure gestion des ressources humaines. Les détails avec notre correspondant à Libreville, Jean-Rovis Dabani.
Depuis ce matin, plusieurs établissements scolaires du public sont restés fermés au premier jour d'une grève lancée par le puissant syndicat de l'éducation, la CONACYCED, Convention nationale des syndicats du secteur éducation. Les enseignants réclament entre autres le paiement de la prime d'incitation à la performance, le paiement d'arriérés des salaires, ainsi que le paiement des salaires des nouveaux fonctionnaires. Selon Yvan Linkumba, délégué à la communication de la CONACYCED, cette nouvelle grève des mois est un avertissement envers les autorités.
Que ces revendications ne trouveront pas satisfaction. Je dis bien tant que ces revendications ne trouveront pas satisfaction, les enseignants ne repartiront pas dans les salles de classe, quelles que soient les intimidations, quelles que soient les menaces qui vont être brandies de renavant. Et comme nous le savons, les menaces ultimes, et comme ça a été le cas au niveau de, entre les mois de juin et juillet, ce sont les suspensions de salaire. Nous sommes aguerris et ils le savent pertinemment. Qu'ils résolvent tout simplement, les intimidations ne nous feront pas peur. Et tant que ce ne sera pas fait, les enfants seront à la maison.
Pour Simon Donguedio, délégué général de la CONACYCED, qui regroupe les principaux syndicats enseignants du pays, la grève est largement suivie sur l'ensemble du territoire national. Mais VOA Afrique, qui s'est rendu dans certains établissements de la capitale gabonaise, a pu constater que quelques lycées et collèges avaient ouvert leurs portes malgré les appels à la grève. Assise dans la vaste cour d'un établissement primaire, Joël Akele est venu observer le piquet des grèves. Elle reproche au gouvernement de ne rien faire pour améliorer les conditions de travail des enseignants.
Je suis ici pour revendiquer mes droits. Il y a le paiement des vacations, il y a le paiement de la PIP du deuxième trimestre que jusqu'à présent nous n'avons pas perçu. Nous avons le cas des rappels qui bien, nous allons à la deuxième année sans rien. Donc sans ça, je ne vois pas comment la sérénité peut revenir au sein de la maison.
Ces 10 dernières années, l'éducation publique au Gabon a été affectée par une série de mouvements d'humeur, tant des enseignants que des élèves et étudiants, en lien avec des revendications salariales ou d'amélioration des conditions de vie et de travail. Louis-Patrick Mombo, enseignant, n'a constaté aucune évolution dans les problèmes soulevés par les enseignants ces dernières années. Il pointe notamment le manque de salles de classe actuellement surchargées.
Autour du président de la République, nous vous rendons compte que le gouvernement passe le temps à mentir plutôt qu'à résoudre les problèmes. La preuve, nous sommes dans un état de droit. Nous sommes en droit de revendiquer puisque les droits syndicaux étant les droits de l'homme. Et le gouvernement s'est inscrit dans cette lignée en disant que le gouvernement était un état de droit qui respectait les droits de l'homme. Nous ne comprenons pas trop pendant que nous appelions à une grève pacifique parce que le piquet de grève, la grève se déroule au lieu du travail. Martine Labou étant un des établissements, donc nous sommes à notre lieu de travail. Nous tenons notre piquet de grève tranquillement, comme nous l'avions fait au niveau de l'éducation nationale. Nous ne comprenons pas trop pourquoi la tutelle fait venir un dispositif répressif. C'est pour vous dire que nous sommes dans une dictature.
Dans un communiqué publié lundi par le quotidien gouvernemental L'Union, le gouvernement a appelé les chefs d'établissements scolaires à prendre toutes les dispositions nécessaires à la bonne reprise des cours. Le Gabon compte près de 22 000 enseignants dans le secteur public, dont 70% dans la capitale gabonaise. Libreville, Jean-Rovis Dabani, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Les Sierra Leone tentent de reprendre une vie normale 2 mois après l'annonce de la fin de l'épidémie d'Ebola dans leur pays. Ils restent confrontés à de nombreux défis. Un reportage à Freetown d'une envoyée spéciale de la Voix de l'Amérique présenté par Michel Joseph.
En ce début d'année, Dadi Hassan Camara est reconnaissant d'avoir ses enfants avec lui. Il fait partie des 4000 personnes à avoir survécu à l'Ebola en Sierra Leone. 9 membres de sa famille, y compris un de ses fils, n'ont pas eu cette chance-là. Depuis qu'il s'est rétabli, Dadi Hassan Camara n'a pas trouvé d'emploi. Il a contracté l'Ebola au contact de sa mère au moment où le virus de la fièvre hémorragique se propageait à travers le pays.
When I was in the treatment center, I was totally mad over the...
Lorsque j'étais dans le centre de traitement, j'étais furieux au sujet de la situation. Même lorsque les médecins m'appelaient pour me donner les médicaments, je les ignorais et par moments, ils avaient même peur de moi.
L'épidémie d'Ebola, qui a éclaté en décembre 2014 en Guinée, a fait plus de 11 000 morts. Après la Sierra Leone et la Guinée, le Libéria devrait être déclaré libre de la fièvre hémorragique ce mois-ci. Le souvenir de l'épidémie reste encore vivace dans l'esprit de ceux qui étaient en ligne de front de la lutte contre le virus. Saliou Diallo est du nombre. Chargé de la mobilisation pour l'UNICEF, il a fait du porte-à-porte pour informer les gens sur les méthodes de protection contre l'Ebola. Saliou Diallo est heureux d'entamer 2016 sans l'Ebola, mais il redoute une résurgence de la maladie, d'autant plus que les Sierra Leonais, en gens très affectueux, aime bien le contact.
Interdiction des accolades des poignées de main, nous ne voulons pas qu'ils abandonnent ces habitudes. Mais on n'y peut rien. Vous voyez, les gens se donnaient des claques dans le dos, se serraient la main, dansaient ensemble. C'est effrayant, tout cela.
Dadi Hassan Camara, lui, s'inquiète de l'avenir, ne sachant pas trop comment payer le loyer ou nourrir sa famille. Certes, il reçoit l'aide de quelques amis, mais il a conscience que cela ne durera pas indéfiniment. En dépit de ces sombres perspectives, Dadi Hassan Camara veut rester positif, espérant que 2016 sera une année plus clémente.
Washington, la voix de l'Amérique.
Après une analyse de la situation socio-économique que traverse le Tchad, l'Union des syndicats du Tchad, principale centrale syndicale des travailleurs du spectre public, fait des propositions pour une sortie de crise. Propositions contenues dans un mémorandum publié en ce début d'année. La correspondance d'André Kodmajingar, notre correspondant à N'Djamena.
Ce document de 23 pages fait suite aux propos contradictoires du président tchadien sur la situation socio-économique du pays. Le 18 décembre 2015, Idriss Déby Itno a déclaré que tous les chantiers arrêtés à cause de la conjoncture financière seront relancés en 2016. C'est une opportunité d'emploi pour les jeunes, dit-il, qui broient du noir. Le 30 décembre 2015, soit 2 semaines après cette sortie médiatique pleine d'espoir, Idriss Déby Itno recule. Il demande à son gouvernement de geler l'intégration de jeunes diplômés à la fonction publique pour 3 ans. Dans son adresse à la Nation le 31 décembre 2015, il attire l'attention de ses concitoyens en ces termes.
L'année 2016 sera encore difficile. L'insécurité qui s'est installée dans la sous-région va continuer à entraîner dans son siège des perturbations quant à nos échanges commerciaux avec les pays voisins, en particulier le Cameroun, le Nigeria et la Libye, avec pour conséquence directe la hausse des prix des denrées de base et le dérèglement généralisé de notre économie. Les perspectives pour la hausse du prix du pétrole restent faibles et nous devons nous préparer à cela. J'invite fortement le gouvernement à accélérer la diversification de l'économie, notamment la promotion de l'agriculture et de l'élevage, et attirer des investissements privés pour créer d'emplois en faveur des jeunes et transformer ainsi notre économie.
Pour décrisper cette crise sociale, l'Union des syndicats du Tchad UST exige du gouvernement un audit exhaustif sur la gestion de la douane et du trésor public depuis la nomination de son frère Kadé Salaï Déby Itno à la tête de cette institution jusqu'au jour de son départ et le ramener devant la justice tchadienne. La dissolution de la direction générale des grands travaux présidentiels qui constitue selon l'UST une source officielle de détournement de deniers publics. La nomination à la tête de régie financière des cadres compétents sans considération familiale et politique. Le document précise par ailleurs que les travailleurs n'entendent plus voir leurs conditions de vie et de travail se dégrader et leur pouvoir d'achat, déjà précaire, continue à baisser. Ils ne sont pas prêts non plus à payer le prix de la mauvaise gouvernance et rejettent la politique de deux poids, deux mesures qui se caractérise par l'impunité pour les uns et la rigueur pour les autres. Ils décident enfin de s'opposer désormais aux nominations qui ne respecteraient pas les critères. André Kodmajingar, N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
La tension monte après l'exécution en Arabie Saoudite samedi. Quel impact aura-t-elle cette exécution sur la région? Esha Saraï a contacté Akram Belkaïd, journaliste au Monde Diplomatique.
qui a été une surprise, c'est cette exécution d'abord. On ne pensait pas que les Saoudiens engendreraient un tel niveau de tension. Un nombre important d'exécutions, parmi lesquelles un dignitaire religieux chiite assez important. Et donc, je dirais que les réactions qui ont été occasionnées en Iran sont assez prévisibles, même si personne ne s'attendait à ce que l'ambassade saoudienne soit incendiée. Mais il est évident qu'on est monté en tension et que la rivalité entre les deux pays va encore plus se durcir.
Et alors, le Bahreïn et le Soudan ont rompu leurs relations diplomatiques avec l'Iran. Est-ce que leur exemple sera suivi par d'autres pays?
Ça va être intéressant à suivre, notamment les autres pays du Golfe. Alors, le Bahreïn a besoin de l'aide militaire et policière de l'Arabie Saoudite, donc ça, ce n'est pas une surprise. Le Soudan, c'est la même chose. C'est un pays qui est assez pauvre et qui est aidé financièrement par l'Arabie Saoudite. Il va être intéressant de voir si les autres pays du Golfe vont faire la même chose. Je pense notamment au Koweït, aux Émirats Arabes Unis et au Qatar. Est-ce qu'ils vont adopter la même position? Ce n'est pas sûr. Mais cela va être intéressant de suivre ces décisions dans les prochains jours et les prochaines semaines parce que ça donnera une idée de ce qu'est l'influence réelle de l'Arabie Saoudite dans le monde arabe.
Et de toute façon, quels autres impacts ont cette tension sur la région en général?
Le premier impact, c'est qu'il y a deux points qui vont être absolument fondamentaux. Le premier, c'est la crise au Yémen. Il n'y aura pas de paix au Yémen tant qu'il n'y aura pas d'accord, ou en tout cas d'accord entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, en tout cas tant qu'il n'y aura pas de détente. Et donc aujourd'hui, on voit mal comment la situation va s'améliorer si il y a une crise entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, puisque chacun soutient un des deux protagonistes en armes. L'Iran soutient la rébellion houthiste et l'Arabie Saoudite soutient les anciens gouvernements, les représentants de l'ancien gouvernement. Et puis vous avez l'autre point qui est la Syrie, c'est-à-dire que pour arriver à une solution au moins politique en Syrie, il y a besoin aussi d'un accord, en tout cas d'amélioration des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et là aussi, si jamais la tension persiste, on voit mal comment on va arriver à une solution pacifique en Syrie. Donc c'est pas simplement les rapports entre ces deux pays, mais c'est aussi tous les conflits et crises qui sont nés de leur guerre froide.
Voilà, c'était donc le Abkram Belkaïd, journaliste du Monde Diplomatique au micro d'Isha Sarai.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends.
Voilà, on écoutait Justin Bieber, Love Yourself. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Michel Joseph. Présentation, Morgane Guiriec et Idrissa Seydoudia.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On continue la conversation sur Facebook. Partagez vos points de vue, vos photos, commentez des sujets, posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'informations 24 sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui.
diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, Raga FM 90.5 Mbujimayi, 93.5 FM Lomé, Clédou FM 90.5 Sikasso Mali et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.